Réplique, christianisme et modernité, avec Rémi Brague et Philippe Diribarne. Chaque société, écrit Octavio Paz dans Point de Convergence, repose sur un nom, véritable pierre de fondation. Autrefois, ce nom était celui d'un dieu, d'une croyance ou d'un destin. Islam, christianisme, empire du milieu. Mais aucune société, ni époque, hors la nôtre, ne s'est elle-même qualifiée de moderne. Qu'est-ce à dire? Et quelle place y a-t-il pour la religion chrétienne dans une Europe qui ne se définit plus comme chrétienté, mais qui, la première, a donné comme idéal le temps et ses changements? Telles sont les questions que je poserai aujourd'hui à Rémi Brague et à Philippe Diribarne. Mais je voudrais d'abord demander à mes deux invités de nous éclairer sur ce mot étrange qui nous spécifie sans rien dire de substantiel. En quoi sommes-nous modernes? Quel est le sens, le programme ou le projet de ce qu'on appelle la modernité? Philippe Diribarne.
La modernité, c'est au départ un projet d'émancipation par rapport aux préjugés, aux idées reçues, aux idées toutes faites, imposées par un pouvoir, disons, de telle nature qu'il soit politique, religieux, etc. Pensé par soi-même. Kant, Descartes, etc. Et puis, c'est devenu progressivement une émancipation, disons, de plus en plus radicale, et en particulier, pour rejoindre ce que disait Octavio Paz, l'émancipation par rapport à toute origine particulière. Et l'idée de construire une sorte de société hors sol, qui ne devrait plus rien à une histoire, à une culture, à une religion, disons, telle qu'elle soit, qui serait en quelque sorte auto-fondée. Et c'est en cela qu'on a vraiment une rupture radicale par rapport à toutes ces sociétés qui considéraient qu'elles devaient avoir un fondement. Que ce soit un fondement religieux ou un fondement mythique, d'une manière ou d'une autre.
Rémi Brague.
Le mot moderne est lui-même riche d'enseignements, puisqu'il désigne à l'origine ce qui est récent, ce qui vient de se passer. En latin, ça se dit modo. Bon, on a fait donc un adjectif modernus, dont notre adjectif français, dans beaucoup de langues européennes, est sorti. Ce qu'il y a d'extraordinaire, justement, dans ce qui s'est appelé soi-même les temps modernes, c'est que ce curseur qui ne cesse de se déplacer et qui fait que aujourd'hui, nous sommes plus modernes qu'hier, mais nous sommes beaucoup moins modernes que demain, et il en sera éternellement ainsi. Ce curseur a été paradoxalement arrêté, en ce sens qu'à un certain moment, il n'y a pas de ligne de partage des eaux bien précise, cela s'est cristallisé peu à peu. À un certain moment, on s'est mis à dire, eh bien, à partir de dorénavant et de désormais, pour citer une vieille blague, nous serons modernes et nous ne serons plus que cela. Nous serons de plus en plus modernes, nous ne serons plus jamais le passé d'un futur, mais nous serons toujours le futur d'un passé. Passé pour lequel on a inventé diverses poubelles, si je puis dire. La principale étant la période qui est censée avoir précédé justement les temps modernes, à savoir le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est donc une époque pré-moderne, éventuellement anti-moderne, par rapport à laquelle la modernité ne cessera de se détacher victorieusement.
Oui, mais il y avait dans cette aspiration à se détacher d'un passé considéré comme oppressif, contraignant, dans cette aspiration à constituer un monde hors sol, il y avait un projet très général, et vous en parlez, Rémi Brague, dans votre livre « Le règne de l'homme », en citant Feuerbach, pour qui le secret de la théologie est l'anthropologie. Dieu n'est autre que la façon dont l'individu humain se représente son espèce. Et donc, il s'agit, à travers cette aspiration moderne, il s'agit de remplacer le règne de Dieu par le règne de l'homme, de mettre au bout du compte, et on compte sur l'histoire, sur le progrès pour le faire, l'homme sur le trône de Dieu. Donc la modernité n'est pas, si vous voulez, son propre but, elle a un but, et c'est la raison pour laquelle elle veut ainsi se détacher du passé où l'homme n'était pas libre et n'était pas maître de son destin ni de l'univers.
Rémi Tout Brun. À fait, c'est pour cela qu'il est important de parler du projet moderne. Je suis très heureux de voir que Philippe Diribarn emploie lui aussi cette expression, que ni l'un ni l'autre n'a inventée d'ailleurs. Il est important de distinguer ce projet de l'époque moderne, qui est une catégorie qui a été proposée par les historiens, qui est commode, qui permet de regrouper un certain nombre de faits qui, comme tous les faits historiques, comportent du bien et du mal. Alors ce projet moderne, quel est-il ? Feuerbach n'est peut-être pas le penseur le plus profond qui l'ait conçu, mais comme justement tous les penseurs un petit peu superficiels, il ramasse pas mal d'idées qui lui sont antérieures, et il leur donne parfois une tournure rhétorique plus satisfaisante. L'idée d'un règne de l'homme que vous avez cité est l'invention, semble-t-il, de Francis Bacon. Deux siècles avant le cher Feuerbach, un petit peu plus d'ailleurs, disons, au tout début du XVIIe siècle. Et Bacon n'avait nullement l'intention de remplacer Dieu sur le trône, si je puis dire, mais de faire en sorte que, grâce à la science qui commençait à se comprendre elle-même comme moderne, en tout cas qui commençait à se comprendre elle-même comme nouvelle, l'apparition de l'expression « science nouvelle » est tout à fait intéressante vers cette époque. Il s'agissait donc pour Bacon de mettre cette nouvelle connaissance de la nature, à laquelle d'ailleurs personnellement il n'avait pas compris grand-chose. Enfin, il n'a rien compris à Galilée, mais enfin bon, il avait, disons, mieux compris peut-être que Galilée lui-même l'esprit. Les possibilités dont cette science nouvelle était grosse. Il s'agissait donc de mettre cette science nouvelle, eh bien, au service de l'homme, d'augmenter la puissance de l'homme sur la nature et d'inaugurer donc ce que, dans le Novum Organon, il appelle le règne de l'homme.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Philippe Diribarn ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a, on voit, il y a une fascination, c'est pour la souveraineté, enfin, pour l'image du maître, l'image du maître. Enfin, avec une opposition radicale qui s'est faite et qu'on va retrouver ensuite, et qu'on va retrouver aussi bien chez Sieyès, chez Marx, et plus près de nous, chez Breton, Simone de Beauvoir, etc., sur l'opposition entre l'esclave et le maître. Et l'idée qu'autrefois, disons, dans une époque de ténèbres, l'individu était esclave et qu'il va devenir maître, alors avec une vision, c'est du maître qui s'est radicalisé, parce que chez Bacon, que vous évoquiez là tout à l'heure, il va encore le maître, encore, est soumis à la nature. Il doit respecter la nature. Dans le rapport sur la nature matérielle, finalement, les modernes ont admis qu'ils devaient accepter la nature. Il y a des exceptions. Lysenko, par exemple, a été une brillante exception, qui voulait refuser la nature pour vraiment affirmer la souveraineté de l'homme, même sur la nature physique. Alors, les modernes contemporains ne revendiquent pas une souveraineté, une capacité à transformer la nature physique, enfin encore qu'avec le transhumanisme, etc., enfin on soit un peu à la limite, mais en tout cas, ils revendiquent une souveraineté radicale sur la nature sociale et politique.
Mais en même temps, il n'y a pas de modernité pour la modernité, ni même de maîtrise pour la maîtrise. Si je me fais un instant l'avocat du projet moderne, je cite une phrase de Descartes dans sa fameuse rencontre avec le cardinal Bérulle, une phrase que vous citez vous-même, Rémy Brague. Il lui fit entrevoir, donc Descartes à Bérulle, les suites que ses pensées pourraient avoir si elles étaient bien conduites et l'utilité que le public en retirerait si l'on appliquait sa manière de philosopher à la médecine et à la mécanique, dont l'une produirait le rétablissement et la conservation de la santé, l'autre, la diminution et le soulagement des travaux des hommes. Donc il y a dans ce projet de maîtrise, non pas tant une ivresse de puissance, mais malgré tout aussi un objectif humanitaire. Scientia propter potentiam, et potentia, la puissance, pour soulager la condition des hommes. Et dans cette volonté-là, ne peut-on pas retrouver quelque chose malgré tout, du message chrétien? On s'émancipe du dogme religieux, mais de fait, peut-être la charité est-elle à l'œuvre.
Tout à fait. Et en tout cas, c'est Bacon qui utilise la charité, l'idée de charité. Peut-être le fait-il d'ailleurs en toute sincérité, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs. C'est lui qui utilise l'idée de charité pour vendre, si je puis dire, son projet de domination technique. Il s'agit de soulager la peine des hommes et même encore de nos jours, la foi au progrès, disons chez l'homme de la rue que nous abritons tous en nous, repose quand même avant tout sur les progrès de la médecine. On peut moins souffrir, on peut vivre plus vieux, on peut faire des quantités de choses, évidemment, contre lesquelles personne ne pourrait s'élever. Mais l'idée de charité n'est pas la seule idée chrétienne qui se trouve ainsi réinterprétée, peut-être dans le droit fil, peut-être à contresens, il faudrait en discuter, par le projet moderne. L'idée même d'émancipation que vous venez de citer, bien c'est l'image de l'adolescent qui devient adulte et qui peut donc se passer de ses précepteurs. Et là, je ne fais pas allusion à un passage célèbre du discours de la méthode, mais bien à saint Paul, qui emploie très exactement cette image de l'enfant devenu adulte et qui peut se passer de ses pédagogues. Il y a d'autres idées comme cela qui sont chez saint Paul, celle d'une tension vers l'avant, par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens. Et beaucoup de slogans, si l'on peut dire, du projet moderne sont d'origine chrétienne et plus précisément paulinienne.
Vous êtes d'accord avec cela, Philippe Géribarne?
Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il faut faire vraiment une distinction très très importante dans le projet moderne. Entre l'aspect de lucidité, que Descartes développait, effectivement, de lucidité au service de l'homme, et de lucidité en particulier, disons, à travers, vous citiez, la médecine, la mécanique, les sciences de la nature, etc. Et d'autre part, c'est le passage qui s'est fait, me semble-t-il, de manière progressive, au fond, de l'idée de l'émancipation par rapport aux préjugés, aux idées toutes faites, au pouvoir néfaste à l'homme, en quelque sorte. Et là, effectivement, on est très proche, disons, d'une démarche chrétienne. Une émancipation beaucoup plus radicale, disait cette émancipation par rapport à tout ce qui va limiter la capacité, disons, de l'homme à s'autocréer comme individu et ça à s'autocréer collectivement, si vous voulez, dans une sorte de vision de la société qui ne devrait rien à quoi que ce soit de préexistant.
Si j'en reste à ce deuxième aspect du projet moderne, cette rupture avec tout ce qui préexiste, quelle peut être aujourd'hui, Philippe Géribarne, justement, la portée de l'idée chrétienne, de la religion chrétienne, du message chrétien, puisque votre dernier livre s'intitule « Chrétien et moderne ». On voit que la modernité a une dette à l'égard du christianisme, que la sécularisation n'est pas simplement rupture avec un modèle antérieur où la religion dirigeait tout, mais que la sécularisation finalement réalise certaines tendances, certaines orientations du message chrétien. On voit aussi que les modernes veulent tout devoir à eux-mêmes, et à cela, le christianisme peut-il apporter une limitation, une réponse,
Philippe Derrida? Oui, je crois qu'il faut bien voir, c'est pas seulement le passé, mais en quelque sorte le présent et le futur, et au fond, la crise actuelle de la modernité. Au fond, la modernité s'est construite, disons, politiquement autour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et on voit à quel point, disons, elle a du mal à concrétiser ces valeurs. Il me semble que la grande illusion sur les modernes est de croire qu'il suffisait de proclamer ces valeurs, voire de les célébrer intellectuellement pour les vivre. Et il me semble que le projet, la vision évangélique montre bien à quel point la vie des hommes, la vie ensemble, la vie non seulement personnelle mais la vie collective et donc finalement la vie de la cité est étroitement dépendante dans la forme qu'elle peut prendre de ce que vont être le rapport des puissants au pouvoir, de ce que va être le regard sur les pauvres, de ce que va être la façon dont est regardé celui avec lequel on n'est pas d'accord, celui même qui est votre ennemi, qui vous fait du mal, etc. Et que dans la possibilité, si vous voulez, de réellement concrétiser ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, on voit, si l'on veut être là réellement lucide, et lucide, disons, de manière moderne, on voit combien va compter le fait que dans la manière dont chacun va vivre, va habiter en quelque sorte l'existence humaine, il va être à la fois dans ses rapports de pouvoir, dans ses rapports aux pauvres, dans ses rapports aux gens en situation difficile, dans ses rapports à celui avec qui on n'est pas d'accord, il va être dans une attitude et dans une manière de percevoir et de vivre le monde qui a beaucoup à devoir, en fait, à l'appel chrétien.
Oui, c'est-à-dire face à une modernité hors sol et proclamative, le christianisme est une manière d'habiter la condition humaine, c'est une de vos expressions, et ça, c'est l'essentiel d'un message dont nous avons particulièrement besoin aujourd'hui.
Tout à fait, parce que à la fois, si vous voulez, on voit bien, disons, dans d'autres sociétés qui n'ont pas du tout d'influence chrétienne, comment un certain nombre de choses sont difficiles à mettre en œuvre. La démocratie, par exemple, autour de la question de l'acceptation du pluralisme. Et on voit comment, si vous voulez, cette acceptation du pluralisme s'ancre finalement dans toute une histoire. Vous évoquiez tout à l'heure, il m'aura d'évoquer Saint Paul, enfin la façon dont Saint Paul a réglé les rapports entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, les chrétiens issus du judaïsme et du paganisme. À partir de là, s'est construite toute une capacité, si vous voulez, à vivre ensemble alors que l'on est différent, à accepter celui avec lequel on s'oppose, à accepter de construire ensemble quelque chose avec celui avec lequel on s'oppose, et que tout cela, eh bien, on en a encore besoin, en tout cas on en a besoin aujourd'hui, et j'ai fort à parier qu'on en aura besoin, disons, de manière durable, et que c'est une illusion de croire qu'on peut renvoyer tout cela, disons, simplement à l'histoire.
Rémi Brague.
Je voudrais peut-être faire intervenir un troisième larron, à savoir l'Antiquité. Nous parlons de la modernité, j'ai fait une rapide allusion au Moyen-Âge. N'oublions pas non plus l'Antiquité, en ce sens que le christianisme et l'antiquité païenne ont un point commun, c'est justement qu'elles ne conçoivent pas tout ce qu'il y a à faire, toutes les valeurs, pour prendre votre vocabulaire qui n'est pas tellement le mien, toutes les valeurs à réaliser, à concrétiser, eh bien il conçoit les valeurs, enfin les deux mondes conçoivent les valeurs de manière différente. Pour le christianisme comme pour l'antiquité que nous appelons païenne, ces valeurs sont à réaliser au sein d'une tâche et non pas d'un projet. Ça a l'air d'être une querelle de mots, mais je crois qu'il faut distinguer très sérieusement la tâche et le projet. La tâche nous est toujours confiée par une instance extérieure. Alors en style païen, ça sera la nature, avec un grand N éventuellement, qui, nous ayant fait homme, nous a mis entre les mains les moyens de notre propre développement. Mais c'est un développement qui devra accomplir un projet qui n'est pas le nôtre, mais qui est d'une certaine manière le projet de la nature. Vous trouvez des choses comme ça chez tous les auteurs païens, chez mon cher Aristote, mais pas seulement chez lui, chez Sénèque par exemple. En style chrétien, on parle moins volontiers de la nature, même si le mot « quoique absent » de la Bible hébraïque est présent en tant que concept. On parle moins de la nature, mais on parle de commandement. C'est Dieu qui commande à l'homme de développer ses possibilités, de se faire le gardien du jardin dans lequel il l'a placé. On est là à 100 lieues de l'idée d'un projet qui ne reposerait que sur soi, qui ne reposerait que sur une décision d'être un souverain qui n'a, comme l'indique l'idée de souveraineté, qui n'a d'instance, qui n'a aucune instance au-dessus de lui. Et lorsque l'on regarde tous les slogans pauliniens auxquels j'ai fait allusion et qui sont aussi les slogans du projet moderne, on s'aperçoit qu'ils sont dans une tonalité tout à fait différente. Ce qui, chez saint Paul, est une tâche confiée par une instance extérieure, voire par le grand extérieur qu'est Dieu, devient dans le projet moderne une décision d'un homme souverain. Et cette différence de tonalité va colorer, pour ainsi dire, toute tentative pour donner aux valeurs dont vous parlez une figure concrète.
Mais Rémy Brague, y a-t-il place dans l'expérience moderne, justement, pour un retour à l'action comme tâche? Nous sommes voués au projet moderne, nous sommes plongés dedans, est-ce que une conversion à une autre modalité de l'action est possible, ou faut-il appréhender cette différence sur simplement le mode de la nostalgie pour une façon d'être et d'agir qui n'est plus?
La nostalgie est toujours paralysante. Donc une action nostalgique, ce serait une contradiction. Je ne sais pas si une conversion, terme dont je rappelle qu'il est platonicien avant d'être chrétien ou quoi que ce soit, le fait d'une reprise de l'idée selon laquelle le développement humain serait plutôt de l'ordre de la tâche que de l'ordre du projet, je ne sais pas si c'est possible, mais je crains bien que ce soit nécessaire. En ce sens que si nous avons perdu le sens de ce que nous avons reçu à être, si nous avons perdu le sens du fait que ce que nous avons à être est quelque chose qui nous a été confié, nous ne pouvons plus guère être sûrs de la légitimité même de notre projet. Car enfin, améliorer l'existence de l'homme, c'est bon pour les hommes qui sont déjà là. Mais cela ne dit rien sur la valeur même de l'aventure humaine. Et on entend de plus en plus de voix pour dire que finalement, c'est peut-être raté, que finalement, l'homme est peut-être la sale bête dont il conviendrait que la Terre se débarrassât pour pouvoir retrouver sa pureté originelle. Donc tant qu'on n'a pas réglé par une invocation à quelque chose comme une tâche, la question de la légitimité de l'humain, tout le reste, y compris les meilleures intentions du monde, y compris les valeurs les plus nobles, risquera de flotter en l'air.
Philippe Guéribarne.
Il me semble quand même que l'idée de tâche n'est quand même pas abandonnée par les modernes. Quand on pense à l'idée de répandre la paix dans le monde, c'est conçu, oui, comme un projet, mais aussi quand même comme un devoir, c'est comme une tâche. Quand on pense à lutter contre la misère, c'est aussi, à certains égards, une tâche. Quand on pense à l'idée de renverser les tyrans corrompus et de répandre la démocratie, enfin, il me semble qu'il y a toute une série quand même de devoirs qui sont sentis, et donc on peut dire à Saint-Zédard des tâches. Et qu'à partir de là, si on rentre dans ces projets qui sont en même temps des tâches, et qu'on se demande à quelles conditions on peut arriver non pas seulement à les rêver, en espérant que l'avenir finira bien par les faire arriver, mais qu'on se demande concrètement, avec les humains, disons, tels qu'ils sont, tels qu'ils sont dans leur histoire, tels qu'ils sont dans leurs limites, tels qu'ils sont dans leur passion, avec les fantômes et les démons qui les habitent. Oui, au fond, les humains de Shakespeare, les humains de Dostoïevski, et pas seulement des humains théoriques, désincarnés. Si on se demande comment ces tâches, on va les réaliser avec les humains tels que nous sommes, avec nos limites, nos passions et nos fantômes et nos démons, à ce moment-là, on rencontre la question de dire comment la vie de la cité va pouvoir se concrétiser de manière positive et comment nous allons pouvoir réaliser tout cela en prenant en compte tous ces humains. Et la manière dont, si je reviens à ce terme, la manière dont ces humains vont pouvoir habiter leurs conditions d'une manière telle que l'on va pouvoir avancer dans ces tâches. Alors qu'actuellement, la crise quand même de là où nous sommes, c'est le sentiment que développer la paix dans le monde, on y a cru, on y croit moins, que répandre la démocratie, on y croit moins, et que lutter contre la misère devient fort problématique.
Il y a un autre aspect quand même de notre rapport à la religion que je voudrais envisager maintenant, parce que le moderne se veut libre et souverain. C'est la version triomphante du projet moderne. Mais je crois qu'il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire... Nous ne sommes plus, ou l'Europe n'est plus chrétienne, mais c'est pas parce que elle se serait émancipée des commandements divins, mais c'est en quelque sorte aussi parce que Dieu l'a quittée. Et les modernes, on pourrait dire aussi qu'ils sont mélancoliques et inconsolés. La religion était une consolation. Dans le sermon sur la mort, Bossuet dit ceci, « Nous le savons très assurément et avec une entière certitude que si cette maison de terre et de boue dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une autre maison qui nous est préparée au ciel. » Il cite l'épître aux Corinthiens. J'ai aussi sous les yeux le livre magnifique de Benjamin Constant de « La religion ». Il parle de nos douleurs, dont les causes sont nombreuses. La destinée nous frappe dans ce que nous chérissons. La vieillesse avance vers nous, époque sombre et solennelle, où les objets s'obscurcissent et semblent se retirer, et où je ne sais quoi de froid et de terne se répand sur tout ce qui nous entoure. Nous cherchons partout des consolations, et presque toutes nos consolations sont religieuses. Quand nous regrettons un objet aimé, nous jetons un pont sur l'abîme et le traversons par la pensée. Enfin, lorsque la vie nous échappe, nous nous élançons vers une autre vie. Ainsi, la religion est la compagne fidèle, l'ingénieuse et infatigable amie de l'infortuné. Il me semble que, en Occident en tout cas, cela n'est plus vrai, même pour les croyants. Les croyants sont plus près de l'incertitude pascalienne que de l'assurance de Bossuet. Peut-être la croyance entre une vie au-delà, une vie éternelle, existe-t-elle? Elle est de l'ordre du pari. Donc nous sommes de moins en moins capables de retirer à la mort son dard venimeux. C'est aussi cela qui fait de nous des modernes. L'instance dont vous parlez, Rémy Brague, eh bien, l'instance extérieure qui pourrait nous amener à accomplir telle ou telle tâche, eh bien, elle a cessé de nous consoler et nous avons de plus en plus de mal pour cette raison, en quelque sorte, à lui faire confiance. Nous sommes rejetés malgré nous dans la modernité, orphelins en quelque sorte d'une croyance perdue.
Je trouve cette idée de consolation particulièrement intéressante, ou plus exactement, je trouve extrêmement intéressante l'attitude qui consiste à dire, et qui est l'attitude la plus commune, je crois, chez nos contemporains un petit peu éduqués, l'attitude qui consiste à dire que ce qui est consolant doit nécessairement être faux. ça doit être une illusion agréable que l'on entretient. Bon, et là, on va appeler au secours toutes sortes de psychologies des profondeurs qui expliqueront que l'on se fabrique des illusions pour pouvoir continuer à vivre. Ça aide à vivre, comme on dit. Alors, je crois que nous sommes là en face d'un problème plus vaste. C'est, l'incapacité de croire, le mot est là et je le contresigne, l'incapacité de croire que certaines choses sont à la fois belles et vraies. Tout le monde connaît l'expression « c'est trop beau pour être vrai ». Eh bien, d'une certaine manière, nous en sommes tous là. L'idée d'une consolation, enfin d'un Dieu qui sécherait toutes les larmes, d'une vie après la mort, ces consolations tout à fait séculières que sont les idées de progrès indéfini, les idées d'un grand soir, les idées d'un remède définitif à tous nos maux. Eh bien, toutes ces idées nous apparaissent de plus en plus comme trop belles pour être vraies. Et nous avons donc un rapport à la vérité qui fait que nous considérons que la vérité doit être laide. Si c'est vrai, ça doit être moche. Si c'est vrai, ça doit être triste. Je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante. C'est Nietzsche qui a, que vous citez une fois, Philippe Diribard, enfin au moins une fois, qui fait remarquer que notre dernière vertu, ce qu'il appelle notre dernière vertu, c'est, disons, l'honnêteté intellectuelle, la probité qui fait que l'on reconnaît ce qui est, même si ça nous déplaît. Alors, dire qu'il y a des choses qui sont belles, mais qui sont vraies en même temps, cela devient quelque chose qui nous est devenu insupportable. Il serait intéressant de se demander pourquoi, de faire la généalogie de cette sorte de désespoir, automatique.
Oui, il y a quand même autre... Pour ce qui est de la vie après la mort, tout le monde a envie d'y croire, mais on y arrive de moins en moins, et le doute, à cet égard... gagne également les croyants. Que pensent-ils dans un cimetière ou dans une église lorsque le prêtre, le pasteur ou le rabbin dit que Dieu a ramené à lui le défunt? Que pensent-ils dans leur cœur? Est-ce que ça les console? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement parce que nous pensons que la vérité est laide. Il y a quelque chose dans le deuil aujourd'hui qui est devenu absolument irrémédiable. Rémi Brague.
Bon, là, il faudrait vraiment faire appel à des enquêtes, des sondages d'opinion, des choses tout à fait empiriques pour lesquelles je n'ai guère de compétences. Ce sur quoi je voulais simplement mettre le doigt, eh bien, c'est que le doute porte finalement sur sur le sens même de notre présence au monde. Enfin, si nous sommes de trop, eh bien, effectivement, il vaut mieux s'en aller et s'en aller définitivement. Par le monde, je n'entends pas seulement l'univers matériel, mais l'ensemble des choses. Si nous sommes de trop dans tout ce qui est, eh bien, peut-être vaudrait-il mieux, effectivement, qu'il n'y ait aucune espérance, plutôt, de survie après la mort.
Philippe Diribard.
Si vous voulez, le fait de critiquer, de questionner la modernité n'interdit pas au monde chrétien de s'autocritiquer aussi et de se poser de solides questions sur lui-même. Et au fond, cette présentation, vous avez lu des pages superbes, au fond, quel est le rapport entre ces pages et puis, disons, le message fondateur, c'est l'élan fondateur du christianisme. Si vous rentrez dans les évangiles, on parle très peu de consolation, des consolations d'après la mort, etc. C'est pas du tout la perspective, disons, de Jésus. Sa perspective, c'est la manière de vivre notre vie d'homme et de vivre de manière heureuse, de manière fraternelle, de manière aimante, notre vie d'homme, disons, ici-bas. Alors, ce qui n'exclut pas. Hein. Et au fond, quand, du reste, quand on parle de la vie éternelle, si on parle de la vie éternelle, dans l'Évangile, la vie éternelle, c'est pas un espèce de truc après la mort qui serait quelque chose d'un peu magique et qui nous consolerait, disons, de la vie présente. C'est quelque chose, disons, qui a un rapport très mystérieux à la vie présente et dont, du reste, l'Évangile ne cherche pas à donner une représentation claire, sans doute, etc. Enfin, l'Évangile est plein de, il reste plein de choses un peu obscures, disons, qui, quand on parle du reste de mystère, enfin, ce sont des choses qui vous nourrissent l'esprit, qui vous nourrissent le cœur, mais pas des choses qui vous satisfassent, disons, de manière claire. Alors, je crois que si le monde chrétien développer plus ce qu'il a à dire réellement sur la manière de vivre dans ce bas monde, il serait beaucoup plus crédible que s'il se contentait de diffuser, disons, d'idées de consolation ou de dogmes un peu difficiles à comprendre, disons, dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, je vais vous poser la question de manière abrupte, Philippe Diribarne. Pensez-vous qu'on puisse être chrétien, vivre en chrétien, sans croire en une vie après la mort? Cette consolation, cette espérance est-elle l'essentiel du message ou au fond est-elle facultative? Habiter le monde en chrétien, est-ce autre chose et cela peut-il continuer dès lors que l'on a malgré soi fait son deuil d'une telle espérance?
Philippe Diribarne. Non, moi je crois, si vous voulez, dans le message chrétien, il y a des choses qui sont très claires, très tangibles, dont on peut, je dirais même, dans un esprit moderne, vérifier l'efficacité, l'influence que ça a, disons, sur la vie en société. Et puis, il y a graduellement, c'est des choses qui sont plus subtiles, moins claires, etc. Et il me semble, si vous voulez, que dans la foi chrétienne, c'est dans la mesure finalement, où on peut être assuré que ce qui est dit dans des domaines, disons, de notre vie d'homme, sur lequel on peut vérifier, je dirais, la qualité du message, que l'on peut faire confiance au messager et dire que là où le messager nous amène dans des directions où il ne nous donne pas d'idées claires, mais où néanmoins il nous suggère qu'il y a quelque chose qui dépasse largement notre entendement, mais qui existe, qu'on peut faire confiance au messager. Enfin, souvent, c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que je dirais, que cette confiance, elle est dérivée en quelque sorte. En même temps, elle devient fondamentale, mais dans l'expérience, elle est dérivée.
Rémi Brague.
Il y a quand même, dans tout le Nouveau Testament, un certain nombre de passages non équivoques qui indiquent qu'il y a, si je puis dire, une autre scène, enfin, que tout ne se termine pas lorsque nous sommes dans le trou et que l'on nous jette de la terre dessus. Je me demande d'ailleurs si il ne faudrait pas sortir de l'idée d'efficacité. On a parlé finalement de l'efficacité de la croyance après la mort, ou vous, Philippe Diribarne, de l'efficacité du message chrétien, c'est un terme que je n'aime pas trop, mais enfin bon, ça nous entraînerait ailleurs, de l'efficacité de la vie chrétienne permettant l'amélioration de la condition humaine. Ce qui me gêne un petit peu dans cette idée d'efficacité, qu'il s'agisse de la praxis ou de l'espérance de quelque chose après le tombeau, c'est que nous retombons dans les deux jumeaux que sont la technique et la magie. La magie étant une forme de technique, simplement maladroite et peu efficace, beaucoup moins efficace que la technologie moderne en particulier, mais qui a le même but, à savoir réaliser nos désirs. Et il y a dans votre livre, Philippe Diribarne, un passage où un Africain explique en substance que la foi au Christ est beaucoup plus efficace que les gris-gris, que le sacrifice aux différentes divinités locales ou aux ancêtres, etc. Et il me semble que l'on reste là dans un cadre finalement non seulement pré-chrétien, mais pré-religieux, puisque la différence entre la religion et la magie, c'est que la religion nous demande de nous changer, nous demande de changer nos désirs, alors que la magie comme la technique ont pour but de la réaliser. Ce qui d'ailleurs m'amène à une petite réflexion sur la vie après la mort. Si la vie après la mort n'était pas une refonte radicale et une amélioration de ce que nous sommes, une amélioration morale de ce que nous sommes, je ne sais pas si elle vaudrait grand-chose. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le christianisme tel que je le comprends rejoint assez Platon. Le Phédon est avant tout un traité de la façon dont la mort et la perspective de la mort doit changer notre vie. Et la perspective d'une correction finale, enfin d'un progrès dans l'au-delà, que l'on trouve d'ailleurs également chez des gens comme Kant, fait partie intégrante de la représentation chrétienne de la vie après la mort. Ce n'est pas simplement une survie, ce n'est pas simplement une continuation.
Oui, en même temps, quand on retourne au texte évangélique, on voit qu'il prend les gens là où ils sont. Et il les fait cheminer à partir de là où ils sont. Quand je prends ce que vous évoquiez, c'est à partir de ces gens qui sont dans une société de la sorcellerie, qui sont vraiment imprégnés de la sorcellerie. Pour eux, passer par le chemin que Jésus est plus efficace, un gris-gris, n'est pas la fin de leur chemin, mais est probablement une étape, disons, nécessaire de leur chemin. Et que ce qui mène, vers les... La grande vision eschatologique d'un monde recréé, hein. et bien sûr pas du tout quelque chose que je voudrais minimiser, je suis tout à fait d'accord avec Rémi Brad là-dessus, mais c'est quelque chose qui entre dans la vie à travers des choses vécues, à travers une pratique, à travers des rapports avec les humains. Quand on dit que aimer Dieu et aimer son prochain sont deux commandements, que c'est le même commandement, ça montre l'intrication, c'est l'étroit qu'il y a entre les deux. Alors, je suis prêt tout à fait à abandonner le terme d'efficacité, mais en même temps, pour se faire comprendre par des modernes, c'est pour prendre les modernes là où ils sont.
Il faut parler leur langage.
Utiliser le terme d'efficacité, voilà. Donc je ne satiriserai pas, si vous voulez, le terme d'efficacité. Mais je veux dire quand même, c'est qu'on a quelque chose qui réellement vient, n'est pas une espèce de consolation qui sort de la vie, mais quelque chose qui rentre vraiment dans votre existence et qui est capable de transformer l'existence. Et c'est à partir de là, de cette transformation, que éprouver quelque chose qui va effectivement bien au-delà de simplement remplacer un gris-gris par Jésus.
Alors, je voudrais maintenant vous soumettre la réflexion de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce rapport entre christianisme et modernité, l'avant-dernier pape, Benoît XVI, dans cette très fameuse conférence de Ratisbonne, il rappelle que la synthèse entre l'esprit grec et l'esprit chrétien a créé l'Europe et qu'elle reste le fondement de l'Europe. Et il se rend compte simplement que la foi chrétienne a subi plusieurs formes successives de déshellénisation. La première, ça a été la réforme, sola scriptura, seule l'écriture compte, puis la théologie libérale du XIXe siècle, il cite Arnac, pour lequel Jésus aurait congédié le culte au bénéfice de la morale. C'est-à-dire que le christianisme, ce serait simplement un message moral philanthropique dont la modernité a besoin. Et pour le reste, dit-il, le logos, la raison, s'identifie à la méthode scientifique. Et les interrogations, où allons-nous, que devons-nous, ne trouvent plus de place dans la raison commune, elles relèvent de la subjectivité, la conscience subjective devient l'instance éthique. Benoît XVI rend hommage aux Lumières, il reconnaît sans réserve la grandeur du développement moderne de l'esprit, mais il plaide pour pour un élargissement de notre conception et de notre usage de la raison. Il parle d'un grand logos et il a cette phrase que je voudrais citer pour finir parce qu'elle est magnifique. Il me vient ici à l'esprit un mot de Socrate à Phédon. Dans les dialogues précédents, beaucoup d'opinions philosophiques erronées avaient été traitées et Socrate dit « On comprendrait que par débit devant de tant de choses fausses, quelqu'un en vienne à haïr et mépriser tous les discours sur l'être pour le reste de sa vie, mais de cette façon, il se priverait de la vérité de l'être et vivrait un grand dommage. » Commentaire de Benoît XVI. Depuis lors, l'Occident est menacé par cette aversion pour les interrogations fondamentales de la raison et il pourrait en découler un grand dommage. Alors, que pensez-vous de cette aspiration à un grand logos où le christianisme aurait pleinement sa part ? Rémi Braque.
Benoît XVI est quelqu'un pour qui j'ai énormément de tendresse. C'est le mot qu'il faut employer. Et j'apprécie beaucoup qu'il s'élève contre ce que j'appellerais, je suis très amateur de calembour, un logos low cost. Et ce logos élargi, enrichi, dont il parle... Je crois que c'est avant tout celui qui nous dit ce que nous avons à faire. Ça n'est pas seulement la rationalité qui calcule et qu'un ordinateur est parfaitement capable de produire au point de battre le champion du monde de Go. Cette rationalité, c'est aussi celle à laquelle... le christianisme, et je dirais même la Bible, il s'agit des deux testaments inséparablement, cette rationalité à laquelle la Bible, dans son unité infrangible, fait confiance et qui nous permet de savoir que faire, de savoir comment nous orienter. De comprendre que certains commandements sont bons et doivent être appliqués pour le bien de l'homme et que d'autres éventuellement sont de moindre importance. De comprendre que c'est la raison qui doit gouverner non seulement notre connaissance du monde matériel, mais les rapports entre les hommes. À la différence du simple sentiment, et je crois que le pape s'élevait contre la réduction de la religion à ce que l'on appelle la religiosité, le sentiment religieux. Il me semble qu'il nomme aussi dans ce contexte plutôt Schleiermacher, Harnack en étant au début du XXe siècle, donc un siècle après Schleiermacher, une conséquence assez lointaine. Effectivement, cette affirmation chrétienne selon laquelle au commencement était le Logos, affirmation qui, au début de l'évangile de Jean, fait très consciemment écho au début de la Bible elle-même, au tout début de la Genèse, où il est raconté que le monde a été créé par une parole, et donc dans quelque chose qui est de l'ordre de la rationalité. Eh bien, toutes ces idées me semblent absolument fondamentales et pouvoir constituer un enrichissement, non seulement pour le christianisme, mais pour la modernité elle-même, pour les Lumières elles-mêmes, dont Philippe Derrybarne, vous avez tout à fait raison de dire que le christianisme aussi leur doit quelque chose. Il n'y a pas seulement une dette des Lumières envers le christianisme, mais il y a aussi une dette du christianisme envers les Lumières.
Oui, tout à fait. Quand on parle de raison, en fait, on parle simultanément de deux choses qui sont très différentes entre elles. C'est d'un côté, c'est la raison comme capacité à se laisser illuminer par quelque chose de grand et qui vous dépasse. L'évangile de Jean va dans ce sens. Et puis il y a un autre aspect de la raison, qui est la capacité à discutailler, à dire mais non, tel fait, ce que vous dites est en contradiction avec tel fait, etc. Et, au fond, par exemple, la démarche scientifique est une sorte d'équilibre entre ces deux raisons. Il y a à la fois le moment, quand même, de l'illumination, le Eureka, d'Archimède, etc., et puis toute la critique au nom de l'expérience. Alors, dans la tradition chrétienne, il y a les deux. Mais La rencontre des deux est jamais facile, hein, parce qu'on risque toujours de basculer, disons, d'un côté ou de l'autre. Alors, il me semble que la modernité a privilégié, quand même, de manière radicale, la raison discutailleuse, qui est nécessaire, mais qui, du coup, a eu tendance à oublier la raison contemplative. Alors, l'islam, au contraire, lui, privilégie la raison contemplative et oublie la raison discutailleuse. Je pense qu'on a à retrouver un lien entre les deux.
Oui, mais, et ça c'est ma question ultime, n'y a-t-il pas aujourd'hui une tendance à voir le christianisme avant tout comme un message moral, philanthropique, humanitaire? L'humanitaire prend de plus en plus de place dans notre idée de la morale et on se dit, ben voilà, le christianisme c'est la charité et... ça n'aurait rien à voir, à cet égard, avec ce grand logos que le pape précédent appelait de ses vœux. Et d'ailleurs, le pape actuel, interrogé sur les racines chrétiennes de l'Europe, dit peut-être, mais au fond, le christianisme est un esprit de service, comme le lavement des pieds. Le devoir du christianisme pour l'Europe, c'est le service, c'est le lavement des pieds. Donc, un christianisme grand logos, un christianisme lavement des pieds, il semblerait qu'on s'oriente plutôt aujourd'hui dans l'idée dominante de la religion vers la seconde définition. Rémi Braque, pour finir.
Pour cette idée d'un christianisme qui doit être avant tout au service de l'homme, je crois que c'est le plan même de Dieu. Enfin, oui. Pour le christianisme, Dieu ne s'est pas incarné pour ses propres beaux yeux, il s'est incarné pour le salut de l'homme. Et là, je crois qu'on voit ce qui fait que je suis un petit peu réticent devant l'idée d'un message chrétien. Philippe Diribarne, vous parlez très souvent le message du Christ, etc. Cela suppose qu'il y a d'un côté un personnage, donc Jésus de Nazareth, puis d'un autre côté un message ou un livre qu'il aurait apporté. Il ne serait donc qu'un prophète. Pour le christianisme, le message, c'est la personne même du Christ. Être chrétien, ça n'est pas adhérer à un message, mais c'est adhérer à une personne. Dans toute son énigme, dans tout son mystère. Enfin, ce bonhomme bizarre, là, qui appelle Dieu papa, qui fait des miracles, qui pardonne les péchés, enfin, qui fait des choses comme s'il jouait, si je puis dire, le rôle de Dieu.
Nous terminerons là-dessus cette émission. Merci beaucoup, Rémi Braque. Merci beaucoup, Philippe Diribarne. Je rappelle, Philippe Diribarne, que vous venez de publier Chrétien et moderne aux éditions Gallimard. Rémi Braque, votre dernier livre, Où va l'histoire, entretien avec Giulio Brotti, est publié chez Salvatore, et j'ai cité également Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne, chez Gallimard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Promenade avec La Fontaine. Mes invités seront Jacques Reda et Jean-Yves Tadier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. Mission suicide, Kamikaze, 1944-1945, avec Pierre-François Souhiri.